La prochaine intervenante est Anouk Barberousse, qui est professeure de philosophie des sciences à la faculté des lettres de Sorbonne Université. Ses travaux portent sur les différentes modalités de la représentation scientifique, donc théorie, modèle, simulation numérique, ainsi que sur les implications du changement scientifique. Plus récemment, elle s'est tournée vers les questions soulevées par les utilisations scientifiques des données massives, big data, en particulier dans les sciences de la vie. Donc son exposé s'intitule « En quoi l'examen des théories physiques est-il pertinent pour l'enquête métaphysique sur le temps ?» Voilà.
Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Claudine et aux organisateurs du colloque donc de me donner l'occasion de présenter une réflexion que j'ai commencée il y a assez longtemps et que je n'ai jamais vraiment terminée. Donc là, je suis contente d'avoir pu avancer un petit peu sur cette question de savoir donc à quelles conditions finalement l'examen des théories physiques peut donner des éléments d'information sur les questions métaphysiques. Et donc je vais commencer tout de suite par vous présenter ce que je vais faire. Mais avant ça, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir pu être là ce matin, enfin en tout cas au début, et ça sera aussi le cas demain matin parce que j'enseigne à ce moment-là. Alors, je vais commencer par quelques considérations un peu générales sur ce qu'on pourrait appeler le domaine de la métaphysique des sciences ou de la métaphysique naturalisée, c'est-à-dire sur la question de savoir en quoi l'examen des théories scientifiques peut contribuer à la métaphysique. Ensuite, avant de passer directement à l'application de ces considérations au temps, je voudrais présenter quelques spécificités de la représentation du temps en physique qui me semblent importantes parce qu'il y a sans doute une spécificité de cette quantité en physique qui peut avoir des répercussions sur la réflexion métaphysique. Et à la fin, contrairement à Baptiste Le Bihan, et en fait je parlais un peu de choses très semblables, mais au lieu de vous présenter une vision un peu panoramique, je me concentre uniquement sur la gravité quantique à boucle, ce sur quoi lui-même un peu insisté, je vais me concentrer sur l'hypothèse selon laquelle le temps émerge en fait de phénomènes plus fondamentaux dans cette approche, et en me demandant donc en quoi cette hypothèse récente, controversée, peut contribuer à la métaphysique du temps. Donc tout d'abord, quelques considérations sur le rapport entre les théories physiques et la métaphysique. Et donc là, je vais vous présenter en quelque sorte les avantages et les inconvénients de la thèse de la pertinence de l'examen un petit peu détaillé des théories physiques pour l'enquête métaphysique. Et d'abord, je voudrais signaler que cette thèse de la pertinence, elle peut prendre des formes assez différentes. Et finalement, selon la forme qu'on choisit, on n'aboutit pas forcément aux mêmes conclusions. Là, je différencie deux approches possibles qu'on ne distingue pas forcément, mais qui est, à mon avis, important de distinguer. Tout d'abord, on peut considérer que les concepts physiques fondamentaux sont de bons candidats au titre de concepts métaphysiques fondamentaux parce que, voilà, au cours de l'histoire de la physique, on arrive à identifier des concepts qui semblent vraiment extrêmement importants et que peut-être, finalement, on pourrait acheter comme des concepts métaphysiques fondamentaux. Peut-être celui d'énergie pourrait être un de ces concepts. En tout cas, c'est une voie possible pour considérer l'import de la physique vers la métaphysique. Il y a une autre voie qui est de considérer plutôt la hiérarchie des théories physiques qui s'organise, naturellement, bon, qui s'organise de fait en théories plus fondamentales et en théories plus dérivées. Et cette hiérarchie-là pourrait peut-être refléter la structure du monde et la structure des composants du monde et leurs interactions. Et regarder les choses soit sous l'angle des concepts, soit sous l'angle des rapports entre les théories, ne donne pas forcément les mêmes résultats quand on considère que les théories physiques ont quelque chose à apporter à la métaphysique. Donc voilà, je voulais signaler cette différence. Et dans l'exposé, je choisirais plutôt la voie du rapport entre théories que la voie de l'examen des concepts, même si historiquement, beaucoup de travaux ont été faits plutôt dans la première voie. Bien. Donc, je rappelle un argument, un des arguments possibles. C'est pas forcément celui qui vient le premier à l'esprit, mais si on s'intéresse au temps, enfin plus précisément à l'espace-temps, ça, c'est un argument qui peut être pris en considération, qui est que si on considère que la recherche d'une théorie physique unifiée, une théorie physique ultime, comme on l'appelle parfois, est légitime, donc ça serait une théorie fondamentale de la physique à partir de laquelle on pourrait dériver toutes les autres, au moins quelques autres, et alors ce projet-là ressemble fort à celui de la métaphysique, et donc là il y aurait peut-être une convergence entre les deux projets et donc une pertinence de cette théorie physique ultime unifiée, donc peut-être la théorie de la gravitation quantique à boucle, peut-être la théorie des cordes, peut-être une autre complètement différente dont on n'a aucune idée aujourd'hui, mais qui aurait, enfin, si elle réussit à arriver, peut-être que ça serait finalement une base pour de la métaphysique, si on enlève quelques scories mathématiques qui ne sont pas interprétées, mais j'y reviendrai par la suite. Alors, la thèse de la pertinence de l'examen des théories physiques pour la métaphysique, elle ne va pas non plus complètement de soi, et il y a des objections qui sont assez importantes et dont il me semble, qu'on doit prêter attention, même si on est partisan d'une forme de métaphysique naturalisée ou une forme de métaphysique scientifique, même si on considère que, de façon générale, la physique peut apporter quelque chose à la métaphysique. Alors, je présente là quelques-unes de ces objections. La première, c'est que aujourd'hui, on n'a pas la théorie physique unifiée, la théorie physique ultime. Et donc, on n'a pas ce qui pourrait être l'équivalent en physique d'un projet métaphysique d'unification, d'avoir une approche vraiment unifiée. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est une situation temporaire et dans le futur, on aura cette théorie physique unifiée et ça sera peut-être une base intéressante pour la métaphysique. Mais l'autre option, c'est que peut-être que dans le futur de la physique, on continuera d'avoir des théories qui ne s'unifient pas bien, qui sont partiellement contradictoires. Et dans ce cas-là, peut-être que le projet d'importer de la physique en métaphysique sera plus fragile. Ce que je voudrais signaler, c'est que quoi qu'on pense finalement sur l'arrivée éventuelle d'une théorie physique unifiée, les arguments en faveur de la première ou de la seconde option s'appuient sur des morceaux différents de l'examen des théories, de la pertinence des théories physiques pour la métaphysique. Et en fait, c'est très difficile d'avoir une argumentation qui soit pas circulaire. Soit on considère que on prend parti en disant la physique a quelque chose à dire à la métaphysique, et dans ce cas-là, on va dire c'est pas grave qu'il n'y ait pas de théorie physique unifiée, la physique finalement n'a pas grand-chose à dire à la métaphysique, et là, effectivement, non plus, c'est pas grave si. On n'a pas de théorie physique unifiée. En tout cas, on ne peut pas comment dire, on ne peut pas avoir une argumentation uniforme, et c'est sans doute un problème quand même important pour la thèse de la pertinence. Un autre problème qui est bien connu et dont je pense qu'il faut vraiment l'affronter, c'est que les théories physiques sont, comme vous le savez, écrites dans une langue qui est partiellement formelle et extrêmement difficile à interpréter. Donc cette langue étant partiellement mathématisée, et en particulier les théories à propos desquelles on peut s'interroger sur ce qu'elles disent du temps, ces théories-là sont particulièrement difficiles à déchiffrer en quelque sorte. Et je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas seulement parce qu'elles utilisent des mathématiques, mais c'est parce que la signification des concepts dans les théories physiques, elle n'est pas donnée, on ne peut pas les découper en quelque sorte. La signification des concepts, de ce qu'on peut interpréter du formalisme, est complètement holiste. Et ça accentue encore la difficulté produite par l'usage des mathématiques. Et une façon qu'on a aujourd'hui de présenter ce problème, c'est d'essayer de trouver des critères qui permettent de séparer ce qui, dans le formalisme des théories physiques tel qu'il est là et tel qu'il est utilisé pour faire des prédictions, de séparer ce qui a un contenu physique et ce qui est juste là pour les calculs, pour faciliter les calculs, pour faire tourner en fait cette espèce de gros appareil qu'est la théorie quand on veut l'utiliser pour faire des prédictions. Donc on parle parfois de mathématiques en surplus. Ça peut s'interpréter de façon en termes de structure, mais pas forcément. Donc la question vraiment difficile, c'est de savoir si on peut vraiment trouver des critères cohérents, satisfaisants, pour séparer ce qui est qui a un sens physique et peut-être métaphysique, et ce qui est juste là, encore une fois, pour faire tourner mathématiquement la théorie. D'autres objections à la thèse de la pertinence. Et donc, je reviendrai, j'évoquerai par la suite chacune de ces objections et pour voir ce qu'on peut en faire dans le cadre de l'examen des théories physiques qui parlent ou qui ne parlent pas d'ailleurs du temps. Bien. Donc, une objection qui est assez classique et ancienne, c'est de dire que... De considérer que finalement ce qui fait la force des théories physiques, ce n'est pas leur pouvoir explicatif, mais plutôt leur pouvoir prédictif, et dans ce cas-là, leur portée métaphysique est faible. Donc si vous considérez que, comme Duhem par exemple, que les théories physiques n'ont pas à expliquer quoi que ce soit, bon, elles n'ont pas d'import métaphysique et il n'y a plus rien à dire sur la question. Une objection complètement différente, mais qui, à mon avis, doit aussi être prise en compte, c'est celle qui consiste à dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les théories et les modèles. Traditionnellement, on oppose les théories et les modèles sur leur capacité à durer dans le temps et à être pris au sérieux, pour ainsi dire. C'est-à-dire qu'on va considérer que les modèles sont des représentations provisoires dont on sait qu'elles contiennent des éléments problématiques, et alors que les théories, on espère qu'elles ne contiennent pas d'éléments problématiques, et c'est pour ça qu'éventuellement, on peut leur faire confiance pour apporter des éléments intéressants pour la métaphysique. Mais, en fait, dans la pratique de la physique, et même de la physique théorique, et même des physiciens qui essayent d'unifier théorie quantique des champs et relativité générale, en fait, cette différence entre théorie et modèle n'est pas forcément si pertinente que ça. Et voilà, ce que les gens cherchent à faire, c'est à trouver les meilleures équations qui vont faire les meilleures prédictions. Et dans tous les cas, qu'on cherche à élaborer une théorie ou qu'on cherche à faire un modèle provisoire, on sait qu'il y a des idéalisations, des simplifications, des approximations, et que finalement, cette différence entre théorie et modèle n'est pas forcément si claire que ça. Et là, du côté de la philosophie des sciences, on a en fait deux grandes façons de travailler sur les théories, ou sur la... les représentations scientifiques dans les représentations scientifiques, soit ce que j'appelle la voie conceptuelle qui cherche à justement à lire entre guillemets l'ontologie dans les théories physiques en essayant de trouver, comme je le disais tout à l'heure, des critères permettant de séparer ce qui est purement calculatoire et ce qui a un vrai contenu, soit la voie de la modélisation qui prête davantage attention à la façon dont on représente les phénomènes, on tire des prédictions, on fait des calculs. Et quand vous prenez cette voie de la modélisation en philosophie des sciences, quand vous regardez les théories physiques en prêtant attention à ce qu'elles font, à ce qu'on peut leur faire faire, principalement en matière de prédiction, eh bien, dans ce cas-là, finalement, la différence, encore une fois, entre théorie et modèle a tendance à s'estomper, et donc peut-être que l'import métaphysique des théories physiques est moins important qu'on pourrait le penser. Une dernière objection, donc elles sont pas liées entre elles, mais je pense encore une fois qu'il faut les prendre en compte. La dernière objection, c'est de se souvenir que les théories physiques sont des artefacts historiques, qu'elles sont le produit d'une histoire partiellement contingente, et on peut mettre le curseur de la contingence plus ou moins loin, et si on prend ça en considération, on peut se dire que finalement leur capacité à produire des vérités éternelles n'est pas gagnée d'avance en quelque sorte. Et cette contingence-là, elle est particulièrement visible quand on s'intéresse justement aux outils de modélisation, aux outils de représentation, au choix de tel ou tel formalisme qui arrive à un moment, qui va être disponible à un moment, mais pas avant, et qui va influer en fait sur la nature des théories physiques qu'on a à disposition. Et je pense que pour les théories qu'on peut interroger à propos du temps, c'est un élément vraiment extrêmement important. Ce caractère historique, le développement historique du formalisme qui aboutit aujourd'hui dans cette proposition, par exemple, de la gravitation quantique à boucle, je pense qu'il y a vraiment une forte contingence historique qui fait que dans un autre monde possible, on aurait une physique fondamentale complètement différente et du coup, c'est quand même peut-être problématique de dire qu'on devrait pouvoir en tirer des conclusions. Mais malgré tout ça, je pense que, en tout cas pour ce qui concerne le temps, et peut-être pas pour ce qui concerne d'autres questions ou d'autres problèmes, je pense que c'est quand même mieux de faire avec la physique disponible pour s'interroger sur la métaphysique du temps que sans. Pourquoi ? Donc Baptiste a donné une partie des raisons qui me semblent importantes, et j'ajouterais que dans les théories physiques, on a beaucoup plus de contenu, et en plus de contenu en partie confirmé, que dans tout autre corpus que de réflexion, d'argumentation, que ce soit. Et donc, ça me semblerait dommage de ne pas essayer de tirer parti de ça, des théories physiques, de la connaissance physique, pour réfléchir à la métaphysique du temps. Ça me semblerait de mauvaise méthode que de se passer, en fait, de ce que disent les théories physiques, malgré les questions que posent l'import des théories physiques pour la métaphysique et que je viens de présenter. Donc maintenant, je vais passer un petit moment sur la question de la représentation du temps dans les théories physiques, parce que ça me semble une sorte de préliminaire essentiel pour comprendre en quoi l'examen de la de la gravité quantique à boucle, enfin de la relativité générale d'abord, et de la gravitation quantique à boucle peut nous informer sur le temps. D'abord, en fait, il ne s'agit pas de la représentation du temps, mais des représentations du temps dans les théories physiques. Et là, je pense que c'est vraiment important d'avoir conscience que c'est la représentation du temps, même si elle est souvent notée par un petit t en italique, elle a des caractéristiques très, très opposées selon les théories. Et il y a plusieurs oppositions qui sont indépendantes ou partiellement indépendantes les unes des autres, ce qui complique encore les choses. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que dans certaines théories, en particulier dans certaines mécaniques, la mécanique classique et la mécanique quantique en particulier, le temps, le symbole du temps, la représentation du temps, c'est pas, comment dire, ne joue pas de rôle vraiment dans la théorie elle-même. C'est juste la variable qui représente le temps ne fait que décrire une sorte d'arrière-plan. Donc le temps absolu dans la mécanique de Newton, l'espace-temps dans les théories de la relativité, mais dans la relativité restreinte, alors que dans d'autres théories, la variable, enfin, la lettre, ou ce qu'on veut, le symbole qui représente le temps, participe vraiment à ce que dit la théorie de la réalité. Par exemple, en thermodynamique, où la théorie vous dit que il y a des grandeurs qui sont irréversibles et que donc le sens du temps compte beaucoup. Alors qu'en mécanique, le sens du temps, c'est complètement indifférent. Donc, voilà. Donc ça, c'est une distinction extrêmement importante et qui est différente de la distinction entre les théories dans lesquelles le symbole qui représente le temps ne participe pas à la dynamique, ne participe pas à la description du mouvement. Donc ça, c'est des théories non relativistes, et les théories dans lesquelles le symbole qui représente le temps participe à la description du mouvement. Donc n'est pas le symbole qui représente le temps n'est pas indépendant des lois du mouvement. Et ça, c'est dans les théories de la relativité. Donc dans ces théories-là, finalement, en particulier en relativité générale, eh bien, le symbole qui représente le temps n'est pas dans l'arrière-plan et il se passe des choses indépendantes de lui. Non, dans la relativité générale, le symbole qui représente le temps participe à la description du mouvement ou du changement. Et donc ça, c'est une différence gigantesque. Il y a d'autres différences sur lesquelles je n'ai pas le temps d'insister, mais en tout cas, c'est, comment dire, si on regarde la diversité des théories physiques... et c'est pas parce que la théorie, la mécanique classique n'est plus considérée comme une théorie fondamentale qu'on doit l'oublier quand on réfléchit à la question dont les théories scientifiques représentent le temps, parce qu'elle est quand même utilisée énormément dans plein d'applications. Donc voilà, quand on regarde la diversité des théories physiques, on se rend compte qu'elles représentent le temps de façon très très variable. Et avec les différences sont vraiment extrêmement importantes. Et déjà ça, c'est peut-être un signe pas très bon sur la capacité de leur capacité aux théories physiques à nous dire des choses métaphysiques. Alors, par ailleurs, comment dire, je voudrais insister un petit peu sur l'autre aspect, sur la capacité des théories physiques au moins à renouveler notre interrogation sur le temps. Il me semble que les théories physiques, justement étant donné qu'elles représentent le temps de façon tellement diverse, elles permettent de renouveler les questions sur le temps, de poser peut-être parfois de nouvelles questions qui n'apparaissaient pas du tout avant. Donc, se pose la question, dans les théories physiques actuelles, de savoir si le temps, c'est une grandeur qui est uniforme dans tout l'espace, par exemple, dans tout l'espace-temps, ou si il y a des temps différents selon les endroits, selon les époques. C'est une question qui peut être posée parce qu'on a les bons moyens formels de représenter cette question, mais c'est difficile de la poser autrement. Ça c'est bien connu depuis plus d'un siècle. L'apparition des théories de la relativité permet de se demander si le temps est indépendant vis-à-vis de l'observateur, qui est une question différente de celle de savoir si le temps existe indépendamment de nous. C'est une question vraiment différente. Elle est proche, elle prend une forme proche, mais c'est une question différente parce qu'elle se pose dans le cadre de théories physiques constituées dans lesquels on peut faire des calculs, on peut faire des prédictions qu'on peut éventuellement confirmer. Donc c'est une question vraiment différente d'une question métaphysique traditionnelle. Donc j'ai évoqué la question de savoir si le temps devait ou non être indépendant de la dynamique. Bon, ça, c'est une question qui ne se pose que dans le cadre de théorie physique. Celle de l'unicité du concept de temps aussi, elle se pose parce qu'on a plusieurs théories physiques qui disent ou qui représentent de façon différente le temps. Et puis, la question de la mesurabilité aussi, évidemment, ne se pose que dans le cadre de théories physiques qui ont le bagage formel, mathématique nécessaire pour poser la question de savoir dans quelles conditions cette quantité est mesurable. Bien. Et donc maintenant, je passe au cœur de l'exposé, qui est de savoir, qui porte sur cette hypothèse récente, non encore confirmée, qui est juste une proposition, comme le disait Baptiste Le Bihan tout à l'heure, quand on s'intéresse aux propositions théoriques qui tentent de dépasser le fossé entre la théorie quantique des champs et la relativité générale, on n'est pas dans de la science confirmée, on n'est pas dans de la science normale, en quelque sorte, on est vraiment dans des propositions théoriques qui ont plus ou moins de succès, mais pour ce qui concerne le temps, cette hypothèse-là, donc développée par Carlo Rovelli, semble particulièrement adaptée. Je ne vais pas juste parler des théories dans lesquelles le temps disparaît, même si c'est quand même un préliminaire important. Donc voilà, je passe maintenant à l'hypothèse du temps thermique. Donc cette hypothèse, déjà, comme je viens de le dire, elle arrive dans un contexte où on a formulé la théorie de la relativité générale de telle sorte que le temps a complètement disparu. Et donc, on est éternaliste sans aucune hésitation. On n'est pas du tout théorie A, mais ça depuis fort longtemps. Il n'existe même pas. On n'en parle pas. Théorie B, sans hésitation. Et en plus, le temps a disparu pour des raisons, évidemment, sur lesquelles je ne vais pas du tout avoir le temps de revenir, mais qui sont des raisons, contingentes historiquement. C'est parce que je vais le dire un peu différemment par la suite, mais la raison pour laquelle on considère volontiers ou on affirme que le temps a disparu de certaines formulations de la relativité générale, c'est donc parce qu'on la formule dans le formalisme hamiltonien, qui est une arme extrêmement puissante pour formuler des théories du mouvement. Une arme, entre guillemets, qui a été donc inventée au début du 19e siècle et qui a vraiment transformé complètement la mécanique classique à l'époque. Et puis, on a utilisé ce formalisme hamiltonien pour d'autres théories, comme l'électromagnétisme, et ça l'a aussi transformé, ça lui a donné une généralité et une solidité théorique bien plus importante que ce qu'il y avait avant, que l'état antérieur de la théorie. Et donc, pour la relativité générale, c'est un mouvement complètement naturel que de l'exprimer sous forme hamiltonienne, étant donné que dans le passé, les théories physiques qui ont été exprimées sous forme hamiltonienne ont été bien meilleures, bien plus satisfaisantes qu'avant. Et puis, il se trouve, par ailleurs, que formuler la relativité générale dans le formalisme hamiltonien, c'est le seul moyen d'espérer l'unifier avec la théorie quantique des champs. Pour des raisons évidemment mathématiques assez complexes, mais ça c'est quelque chose de complètement établi. Donc il y a plusieurs raisons de formuler la relativité générale dans le formalisme hamiltonien. Il y a une raison intrinsèque qui vient de l'histoire de la physique, qui est due à la puissance de ce formalisme, à sa puissance de généralité. Et puis il y a une autre raison extérieure qui vient du fait qu'on s'accorde généralement pour dire que c'est la seule façon, encore une fois, de l'unifier avec la théorie quantique des champs. Donc, l'hypothèse du temps thermique, elle se place dans ce cadre. Formalisation hamiltonienne de la relativité générale. Et elle propose que le temps, tel que nous le connaissons, qui introduit une asymétrie entre l'avant et l'après, émerge, arrive dans certaines conditions, engendré en quelque sorte par la dynamique, par le mouvement dans l'espace-temps. Et à terme, mais on n'y est pas, loin de là, cette hypothèse a pour but d'expliquer pourquoi nous avons cette impression si forte que le temps passe. Donc il ne s'agit pas de revenir à la théorie A, mais il s'agit quand même au moins d'arriver à faire sortir d'une physique sans temps les conditions dans lesquelles il y a une irréversibilité thermodynamique, au moins. Bien. Et puis donc après, si on met les humains là-dedans, ben, voilà, ils ont l'impression que le temps passe, ils vieillissent, etc. Et donc on récupère quand même une partie des intuitions importantes sur le temps. Donc la question qui me semble importante, c'est celle donc, des critères que j'évoquais avant de façon plus générale, c'est celle des critères qui permettent d'évaluer cette proposition donc, pour ce qui concerne l'explication qu'elle donne de l'émergence du temps. Alors il faudrait examiner ces critères sur une vaste gamme de questions. Là, j'en ai sélectionné juste trois. D'abord, je voudrais quand même revenir sur la discussion sur l'éternalisme l'éternalisme fort, parfois on l'appelle comme ça. C'est non seulement c'est de l'éternalisme, mais c'est un éternalisme dans lequel il y a plus du tout de temps. Donc je vais parler un tout petit peu de ça. Je vais dire aussi un mot sur le fait que quand on fait disparaître et réapparaître en quelque sorte le temps, c'est pas seulement le concept de temps qui change, mais d'autres concepts, et en particulier celui de changement et celui d'observable. Et là, il y a une discussion vraiment très, acharnée sur le sens du concept d'observable, qui a toute une histoire, mais qui est complètement affecté en fait par ce qu'on dit du temps dans les théories physiques du futur. Et puis, je vais terminer en disant deux mots sur la notion de temps physique, qui est une notion que les physiciens aiment bien utiliser, et donc qui n'est sans doute pas du temps métaphysique, mais qui est leur notion pour essayer justement de séparer les éléments du formalisme qui ont un contenu et ceux qui sont juste formels ou qui sont juste des maths pour faire des prédictions. Bien, donc, la position éternaliste, donc, et la position qui conduit à la disparition du temps. Qu'est-ce qui conduit à ça? Je l'ai déjà dit, c'est la formulation hamiltonienne de la relativité générale. Donc, pour le dire en deux mots, et donc j'ai choisi de ne pas mettre de formalisme, donc les formulations sont un peu maladroites, enfin, c'est pas complètement satisfaisant. Bon, en tout cas, l'idée générale, c'est que quand on utilise cette façon-là de formuler la relativité générale, qui, encore une fois, n'est pas du tout exceptionnelle en physique, parce que c'est la façon d'avoir les formulations les plus générales des théories. Eh bien, dans ce cas, pour la relativité générale, l'objet mathématique qui représente l'espace-temps n'a plus de signification physique. C'est juste un morceau de mathématiques qui a certaines propriétés, mais qu'on n'interprète pas, en fait, qu'on laisse là pour faire les calculs. Il y a une chose qui a une signification physique, en tout cas. Il y a un élément sur lequel tout le monde s'accorde pour dire qu'il a une signification physique et que c'est sans doute la chose la plus importante, c'est tout ce qui est invariant quand on change les coordonnées, quand on change la description du système étudié. Ça, on s'accorde pour dire que ça a une signification physique, mais ce n'est pas le cas de la variété spatio-temporelle. Par ailleurs, c'est une idée très proche, mais donc seules les localisations spatio-temporelles qui sont déterminées par la dynamique, donc qui dépendent de la dynamique, qui dépendent des équations du mouvement ou des équations de champ, ont un sens physique, et le reste n'en a pas. Donc vous avez plein de localisations spatio-temporelles qui n'ont pas de signification. Donc c'est pour ça que la question des critères de la distinction entre ce qui a un sens dans la théorie et ce qui est juste là pour le calcul, c'est vraiment une question qui me semble importante. Je passe la fin parce que je n'ai pas le temps de parler de la liberté de jauge, mais c'est une notion centrale. Donc, je vous ai dit, quand on change la signification du concept de temps, quand on le fait disparaître, réapparaître, d'autres concepts sont évidemment... Enfin, ce n'est pas évident, mais il se trouve que d'autres concepts sont transformés, dont celui de changement et celui d'observable. Et là, un des débats complètement ouverts que moi, je vois comme étant vraiment à la frontière entre physique et métaphysique, et je ne vois pas de distinction de droit entre les deux, mais c'est évidemment à discuter. Une question ouverte, c'est de savoir quels sont les supports du changement. Est-ce que ce sont les substances, peut-être les points d'espace-temps, ou les propriétés, ou les ensembles de propriétés qu'on appelle des états physiques. Donc souvent, le concept... Enfin, qui est important dans les théories, c'est les états physiques, c'est les états des systèmes. Donc beaucoup disent c'est ça qui est important pour le temps. Oui, je regarde l'heure, merci. Donc c'est ça qui est important. Non, mais c'est une question ouverte, parce que d'autres disent non, mais on ne peut pas concevoir le changement si on n'a pas un substrat substantiel qui est le support de ce qui change. Question ouverte. Autre question ouverte sur la nature des observables. Donc là, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer suffisamment, mais je vous renvoie à un débat extrêmement intéressant qui a eu lieu il y a quelques années entre Hirman et Maudlin. Hirman ayant proposé une sorte de MacTaggart moderne qui défend une version encore plus... une version moderne en relativité générale de la disparition de l'inexistence du temps, et Maudlin disant non, mais ça va pas du tout, il faut des critères beaucoup plus proches de nos intuitions pour séparer ce qui dans le formalisme est à un sens physique ou pas. Bien, donc le débat est resté peut-être ouvert, c'est à décider dans son fort intérieur. Et enfin, la notion de temps physique, elle me semble intéressante à examiner. Parce que, en fait, dans les discussions chez les physiciens sur l'hypothèse du temps thermique, donc c'est l'hypothèse selon laquelle le temps émerge dans certaines conditions de la dynamique, la notion de temps physique, elle est donc utilisée, c'est une notion qui est utilisée par les physiciens pour séparer un peu les théories qu'ils aiment bien et les théories qu'ils n'aiment pas. Les théories qu'ils n'aiment pas, ils disent le symbole de temps, il n'a pas de signification, ce n'est pas un vrai temps physique, il a des mauvaises propriétés. Et ceux qu'ils aiment bien, c'est un bon symbole de temps. Donc on pourrait dire ça, c'est intéressant pour la métaphysique, parce que c'est là qu'on a le contenu. Mais, je vais encore aller dans l'autre sens... Le problème, c'est que cette notion de temps physique, donc une liste de propriétés désirables pour le temps qu'on veut éventuellement voir émerger de la théorie de la gravitation quantique, il a deux sources. La notion de temps physique a deux sources. Elle vient de l'histoire de la physique elle-même et de ce que les théories physiques nous ont appris sur le temps. Donc ça, c'est vraiment interne à la physique. Mais ça vient aussi d'un ensemble d'éléments qui viennent d'ailleurs que de la physique, peut-être des intuitions, peut-être de l'histoire de la philosophie à voir, mais qui en tout cas sont des espèces de projections de ce qu'on aimerait bien avoir comme temps en physique, et qui sont... parce que voilà, on n'a pas envie que le temps disparaisse complètement, donc on attend quelque chose des théories physiques, et ça vient donc en partie des théories physiques elles-mêmes, mais aussi d'une autre source qui est peut-être... le sens commun, de la métaphysique. Et donc, ça complexifie encore, à mon avis, la question de savoir si on peut tirer des choses intéressantes en examinant les théories physiques pour la métaphysique du temps. Et je m'arrête là. Merci pour votre attention.